VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 24 septembre 2021. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous revenons sur les expulsions des migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Depuis dimanche, les services migratoires américains ont affrété pas moins de 12 vols pour renvoyer plus de 1400 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants, dans la capitale Port-au-Prince et Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. En réaction à ces expulsions, l'émissaire américain en Haïti, Daniel Foot, a démissionné, dénonçant les expulsions inhumaines avec pour point focal ces clichés qui ont fait le tour du monde, suscitant un vif émoi aux États-Unis jusqu'aux proches alliés du président Joe Biden. Au sein de l'administration Biden, justement, le ministre américain à la sécurité intérieure a affirmé mercredi que les photos montrant des membres de la police aux frontières repoussant à cheval les migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine ne reflétaient pas l'identité des États-Unis ni l'action de l'ensemble de cette force. Pour parler de cette actualité, nous avons comme invité ce vendredi Jean-Germain Gros de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Jean-Germain Gros, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. À New York, nous avons Bakary Tandja, il est militant des droits des immigrants. Bakary Tandja, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'avoir répondu présent. Herman Cohen est diplomate et ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Herman Cohen, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis très content d'être parmi vous.
Merci d'être parmi nous. Donc également avec nous, l'activiste Ruben Joannem depuis Minneapolis. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tous.
Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bakary Tandja, je vais commencer par vous. Vous êtes, on le disait tantôt, militant des droits des migrants, des immigrants. Qu'est-ce que ce qui se passe en ce moment avec les migrants haïtiens vous inspire comme commentaire?
Ce que ça m'inspire, c'est une situation inacceptable. C'est une situation de violation des droits de l'homme. Il y a un devoir d'assistance humanitaire compte tenu de la situation grave que traverse Haïti. Et en plus, la situation que connaît Haïti, si on se réfère aux causes fondamentales, les États-Unis ont une grande responsabilité et par rapport à ça, je pense qu'il y a un droit, il y a un impératif de répondre adéquatement à la situation, ce qui n'est pas d'expulser des personnes vulnérables qui vont être exposées aux nombreux dangers que nous connaissons.
Alors, Ruben Joannem, dans sa lettre de démission datée de mercredi et adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'émissaire américain en Haïti évoque la question de l'insécurité et notamment des gangs armés qui contrôlent quasiment la ville au quotidien. Quel est l'état de la situation sur le terrain? Que vous disent vos proches là-bas?
La situation est vraiment chaotique. Ce qui se passe depuis ces derniers jours ont vraiment fait le ras-le-bol. Ça indique que l'administration à Washington ne se fait aucun souci des conditions en Haïti. Parce que non seulement il existe, je dirais, l'État perd tout contrôle par rapport aux activités des gangs qui opèrent à travers tout le territoire national. Ils n'ont pas les moyens techniques pour contrôler les activités de ces bandits. Maintenant, à cela, le dernier séisme qui vient de se dérouler dans le sud d'Haïti. Et en dépit de tous ces problèmes, on a pu constater que l'administration de Joe Biden ne se fait pas de soucis pour rapatrier les migrants haïtiens en Haïti. Il fallait placer un moratorium sur la déportation des Haïtiens en Haïti pour le moment.
Herman Cohen, dans le langage diplomatique, un émissaire qui démissionne, comme c'est le cas avec Daniel Foot, qu'est-ce que ça traduit pour vous?
Bon, écoutez, il y a un élément qui n'est pas très bien connu dans cette affaire. Les Haïtiens qui sont arrivés à la frontière ne sont pas venus de Haïti. Ils sont venus de d'autres pays dans l'Amérique latine. Il y avait parmi ce groupe pas mal de gens, de Haïtiens, qui étaient déjà établis en Chili et au Brésil. Et ils sont venus à la frontière pas parce qu'ils étaient réfugiés des mauvaises choses en Haïti. Ils sont venus pour chercher une meilleure vie aux États-Unis. Donc, les États-Unis ne peuvent pas ouvrir ses frontières pour des gens comme ça, qui sont venus volontairement. Donc, je déplore aussi la méthode d'expulsion et je déplore le fait qu'ils étaient envoyés en Haïti. Ils auraient dû être envoyés dans le pays d'origine, comme le Chili, par exemple.
Le fait que les Haïtiens ont arrivé hier, où ça fait un an, ça ne fait aucune différence parce qu'on les a rapatriés tous en Haïti, dans la situation qui existe couramment. Donc, c'est problématique.
Jean-Germain Gros, l'ambassadeur Herman Cohen parlait tout à l'heure de la méthode. Et on a vu ces images de la police aux frontières repoussant à cheval des migrants haïtiens. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'originaire de ce pays quand vous avez vu ces images?
Bon, en tant qu'originaire d'Haïti, j'ai ressenti, n'est-ce pas, une grande douleur. Beaucoup de peine. Mais il faut admettre que tout pays souverain a le droit de contrôler son territoire. Donc c'est le droit des États-Unis, du gouvernement américain, de mettre un certain ordre. Mais il y a également une façon de bien faire et une façon de mal faire. Et je crois que la façon dont on a traité les réfugiés haïtiens, ce n'est pas la bonne façon. On aurait dû les traiter de manière beaucoup plus humaine, donc ce qui serait très bien pour l'image des États-Unis. Donc attention, je ne dis pas que les États-Unis n'ont pas le droit de contrôler leur territoire. Ils ont le droit parce que c'est un pays souverain, mais il y a toujours une façon de bien faire. Et je crois que la façon dont on a essayé d'expulser les Haïtiens, ce n'était pas la bonne façon.
Alors, Bakary Tandja, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a accusé justement mercredi l'administration Biden d'encourager l'arrivée des migrants aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations et à votre avis, que faut-il faire pour résoudre cette crise migratoire? Parce que on se plaint de la manière dont les Haïtiens ont été expulsés. Et l'ambassadeur Cohen disait tout à l'heure que l'Amérique ne peut pas aussi ouvrir ses portes à tout le monde.
Bon, après, l'accusation contre Biden, bon, je le place dans le contexte politique. Donc, un républicain va saisir n'importe quelle occasion pour essayer de dénigrer et de ternir l'image du président Biden. Par rapport à la situation, pour en tout cas répondre à ce que les collègues viennent de décrire, bon, je pense qu'il y a une nécessité d'équilibrer et d'avoir une approche raisonnable entre les obligations de sécurité et la nécessité de respecter les droits de l'homme. Ce que nous avons vu ne reflète pas réellement les valeurs que l'Amérique défend à travers le monde, d'autant plus que nous avons vu de l'autre côté, en Afghanistan, le gouvernement a déployé des efforts incroyables pour soustraire les Afghans qui sont exposés au risque de persécution de la part des talibans. Bon, donc, c'est très, très important de tenir compte, en tout cas, de tous ces faits. Bon, par rapport à la question que vous avez posée, bon, je pense que on ne doit pas tout simplement traiter les effets. On doit attaquer les causes, déterminer les causes fondamentales qui poussent ces personnes-là à quitter Haïti pour venir ici. Bon, tout le monde le sait. Haïti a connu successivement des problèmes sérieux sur le plan politique, crise après crise, et aussi des catastrophes naturelles dont les conséquences sont en train d'affecter la vie des populations. Donc, quand on veut attaquer, en tout cas, un problème, on ne doit pas tout simplement s'attaquer aux symptômes ou aux manifestations extérieures.
Herman Cohen, les États-Unis sont l'une des principales puissances susceptibles d'exercer justement une influence sur Haïti, puisque c'est un pays qu'ils ont occupé militairement pendant 19 ans, de 1915 à 1934. Mais le président Joe Biden s'oppose à tout envoi des militaires américains en Haïti, malgré la demande en ce sens du gouvernement haïtien qui souhaite rétablir la sécurité. Comment analysez-vous cette position de Joe Biden?
Oh, sur le plan politique, c'est très délicat pour Biden parce qu'il a retiré des soldats d'Afghanistan. Il a dit que c'est fini, les guerres interminables. Donc, d'un jour à l'autre, d'envoyer des soldats dans un autre pays où le pays est instable, où il n'y a pas de danger pour la sécurité des États-Unis, c'est très délicat pour le président Biden. Sur le plan intérieur, sa popularité est en baisse en ce moment. Et d'envoyer des soldats en Haïti où ils sont exposés aux bandes ou à la loi, c'est impossible pour lui. Donc, il ne peut pas le faire.
Ruben Joannem, est-ce que vous savez d'où viennent justement ces bandes armées qui terrorisent, j'ai envie de dire, le peuple haïtien? Et pourquoi est-ce que les autorités là-bas n'arrivent pas à faire face à ces bandes? Qui contrôle ces bandes, en fait?
Nous, les Haïtiens, nous ne fabriquons pas les armes ni les ammunitions qui les alimentent. Ça vient des États-Unis et ailleurs. C'est un marché lucratif. Certains secteurs de la société protègent. Et je dénonce également cette immense hypocrisie de la part des États-Unis qui va ailleurs prêchant son programme de démocratie tout en promouvant ici aux États-Unis la masse incarcération des Noirs, des Nègres. Et je vous assure, si c'était des Blancs qui s'amassaient à la frontière sud des États-Unis, on les aurait traités autrement. Le problème n'est pas tout simplement ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Jean-Germain Gros, que peut faire l'administration Biden pour ramener l'ordre en Haïti, aussi bien au niveau politique que sécuritaire? Que faire même, en fait, pour éviter l'afflux des Haïtiens aux frontières des États-Unis?
Bon, c'est une très bonne question. J'aimerais mettre la migration haïtienne dans un certain contexte historique. Les Haïtiens ont commencé à émigrer ailleurs vers la fin du 19e siècle. D'abord, ils se rendaient à Cuba. Ensuite, dans les années 30, en République dominicaine. On se souvient bien sûr du massacre qu'a perpétré à Trujillo contre les Haïtiens en 1937, je crois, où des milliers d'Haïtiens ont perdu leur vie. Dans les années 60, les Haïtiens ont fui Haïti à cause de la répression du gouvernement de François Papadoc Duvalier. C'est ainsi que ma famille a laissé Haïti. Dans les années 80, n'est-ce pas, il y a eu une autre fuite migratoire, celle des soi-disant boat people. Ensuite, après 2010, après le tremblement de terre de 2010, n'est-ce pas, le Brésil et le Chili ont ouvert leurs portes aux Haïtiens et les Haïtiens se sont rendus au Chili et au Brésil. Maintenant, ils ont décidé, n'est-ce pas, de poursuivre jusqu'aux États-Unis. La migration haïtienne est due à deux causes. Il y a premièrement l'effondrement de l'État haïtien. L'État haïtien ne peut pas maintenir l'ordre sur son propre territoire. Ensuite, il y a la faillite de l'économie haïtienne. Vous vous rendez compte que Haïti a une population de 11 millions d'habitants, mais un produit national brut de 10 milliards de dollars. La République dominicaine a 11 millions d'habitants également, mais son économie est évaluée à 70 milliards. Donc, il ne faut pas être surpris si les Haïtiens quittent Haïti et s'en vont en République dominicaine. Les causes fondamentales de la migration haïtienne, c'est l'effondrement de l'État haïtien. Haïti est un État en faillite. Et ensuite, il y a une économie qui ne marche pas. Donc, il faudra attaquer ces deux problèmes. Et je ne crois pas que les États-Unis, n'est-ce pas, auront ce qui sera nécessaire pour adresser ces problèmes. Parce que ces problèmes sont fondamentaux. Ils existent depuis des années. Et je ne pense pas que les États-Unis auront la patience d'intervenir en Haïti pour résoudre ces problèmes fondamentaux.
Bakary Tandja, d'où peut venir la solution à ces problèmes migratoires? Comment faire?
Je pense que l'approche par rapport à la situation en Haïti doit être une approche multidimensionnelle qui va prendre en compte le problème politique, le problème économique. Tant que ces difficultés persistent et que la crise politique continue, ce sera très très difficile de maintenir les populations sur place. Et aussi, il faut être honnête et réaliste. On sait que le problème d'Haïti, il y a toujours une main extérieure qui empêche, en tout cas, ce pays de rester stable. Bon, nous avons, par exemple, le meurtre de l'actuel, du président, le président qui vient d'être assassiné. C'était curieux et inexplicable qu'un président puisse être assassiné de cette manière dans un pays normal. Donc, ça veut dire que la situation en Haïti n'est pas une situation normale. Si on essaie de voir dans l'histoire, il n'y a jamais eu de cas pareil. Donc, les États-Unis et la communauté internationale doivent prendre sérieusement le problème d'Haïti. Sinon, c'est une situation qui a débordé, qui dépasse le contrôle du gouvernement haïtien, qui n'existe qu'en théorie. En réalité, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'administration, c'est le chaos. Donc, il y a une nécessité, une exigence d'intervention, sinon la crise va s'aggraver au fur et à mesure et peut-être affecter. Bon, comme ambassadeur Herman a posé le problème de la sécurité des États-Unis, si la situation s'aggrave là-bas, bon, finalement, d'une façon ou d'une autre, les ramifications vont toucher les États-Unis. Donc, c'est le moment d'agir.
Le président Juvénal Moïse qui a donc été assassiné. Ambassadeur Herman Cohen, vous parliez au début tout à l'heure des raisons économiques qui poussent les Haïtiens à venir aux États-Unis. Comment résoudre ce problème de façon définitive, à votre avis?
Oh, je suis d'accord avec notre collègue en Haïti à l'intérieur, Nachik. Il n'y a vraiment pas d'institution qui marche. C'est vraiment le chaos. Et comme je suis spécialiste dans les affaires africaines, je me demande pourquoi les Nations Unies ne peuvent pas organiser une force de gardien de la paix pour Haïti. Les soldats de plusieurs pays peuvent rétablir l'ordre et aussi envoyer des civils pour réformer des institutions. On fait ça dans plusieurs pays en Afrique centrale, pourquoi pas en Haïti? Et les Nations Unies sont neutres. Donc je crois que c'est une question d'argent et de volonté.
Bon, oui, je dois rappeler à nos participants que l'ONU et les forces de l'ONU étaient en Haïti et on a eu une sorte de choléra qui a fait ravage en Haïti. Et je dois rappeler aussi à tout le monde que même si l'occupation américaine de 1915 a apparemment pris fin, mais je vous rappelle que l'occupation économique reste et demeure parce que auparavant, il y a quelques 3 décennies, nos paysans haïtiens produisaient le café, produisaient, ils faisaient l'élevage et on avait aussi le riz en Haïti. C'est des fournisseurs américains qui font le dumping en Haïti maintenant. Le riz a disparu et nos professionnels comme tailleurs et les cordonniers, tout ça ont disparu parce qu'il y a les vêtements d'occasion qui arrivent, qu'on fait déferler sur les rives d'Haïti. Il y a également toutes sortes de participations d'une élite kleptocratique qui est en conspiration avec des sociétés multinationales qui ont fait la même mise sur Haïti. Ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus que ça.
On va faire un dernier tour de table. Hein. On est presque arrivé au terme du temps imparti à cette émission. Une question, quel pourrait être l'impact de ces expulsions d'Haïtiens au niveau politique à l'égard de Joe Biden ou des démocrates de façon générale? Je veux dire, est-ce qu'il est possible que les Haïtiens décident au cours des prochains scrutins de ne pas voter démocrate? Je commence par Jean-Germain Bon.
C'est toujours possible, c'est toujours possible. Je pense que s'il y aura des conséquences négatives sur les chances de Joe Biden et des démocrates en général, cela viendra surtout de la réaction des Africains-Américains, des Noirs-Américains, pas uniquement des Haïtiens, parce que les Haïtiens ont un impact relativement limité, et ce, dans certains États, surtout la Floride. Ce qui comptera, c'est la réaction de la population noire aux États-Unis en général. Est-ce qu'ils auront perçu que l'administration Biden comme étant une administration qui a agi de manière juste envers les Noirs, envers les Haïtiens qui sont en majorité noirs.
Bakary Tandja, est-ce que l'immigration pourrait revenir comme sujet important lors des prochains scrutins, selon vous?
Absolument. L'immigration, toutes ces années, a toujours été un problème national et dans les débats pendant les campagnes. Une place de choix a toujours été réservée à l'immigration. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en tout cas cette image du traitement des réfugiés haïtiens continue, ça va créer une vulnérabilité au niveau des démocrates qui, pendant la campagne, en général, pour avoir la sympathie de tous ceux qui s'intéressent aux questions de justice et des droits de l'homme, pour attaquer les républicains. Donc les républicains pourront utiliser cette vulnérabilité contre les démocrates et les démocrates vont éviter d'utiliser un argument qu'ils ont toujours utilisé pour faire avancer leur position sur le plan politique.
Herman Cohen, est-ce que c'est une crise de plus sur le plateau de Biden à gérer après le Covid, après l'Afghanistan? Est-ce que Haïti, c'est une autre crise, vous pensez?
Non, pas du tout. Il y a un courant aux États-Unis anti-immigrants. Et c'est même les Noirs américains, les hispanophones américains sont anti-immigrants. Après tout, c'est ça qui a fait la force de Trump, anti-immigrants. Donc je crois que Biden ne peut que tirer des avantages avec sa politique envers les Haïtiens.
Ruben Joannem, en quelques secondes, vous, qu'est-ce que vous pensez des implications politiques pour Joe Biden?
Ça ne va pas avoir beaucoup d'importance dans la balance pour le moment. Les républicains sauront tirer profit de la situation, mais en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce qui a trait au prochain suffrage démocratique.
Et donc, c'est avec ces propos qu'on met fin à cette émission de l'Amérique et vous, présentée par John Lydon, production Michel Joseph. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet www.voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.